L'exposition Sésostris III, Pharaon de légende, est présentée actuellement et jusqu'au 25 janvier 2015 au Palais des Beaux-Arts de Lille. C'est la première fois qu'au Palais des Beaux-Arts de Lille, une grande exposition est consacrée à l'Égypte. Nous retrouvons, le jour de l'ouverture, Cédric Magnier, conservateur du patrimoine stagiaire au Palais des Beaux-Arts de Lille, spécialiste de l'Égypte antique, qui nous la présente.
C'est une exposition qui s'est donc organisée autour d'un pharaon, Sésostris III, qui a régné aux alentours de 1870 avant Jésus-Christ, dont on sait des choses sans savoir, c'est-à-dire que c'est un pharaon qui a marqué son temps, mais qui est très peu connu du grand public. Donc l'idée autour de cette exposition, c'était de révéler la personnalité de ce pharaon au public par une exposition en trois temps, une exposition qui a d'abord parlé du souverain, puis de la vie du peuple égyptien sous son règne, et enfin les croyances funéraires. Il faut savoir que l'exposition est née d'un événement important dans la vie du Palais des Beaux-Arts de Lille, à savoir un dépôt de l'Université de Lille 3, donc des objets qui proviennent d'un site qui s'appelle Mirghissa, qui est actuellement sous les eaux du lac Nasser au Soudan. Ce sont des objets qui ont été découverts lors de fouilles de sauvetage, alors que la Nubie était condamnée à être engloutie par la création du lac Nasser. Et les autorités soudanaises, en remerciement de la participation de l'Université de Lille, ont fait un partage de fouilles et ont offert plus de 3000 objets qui sont arrivés au Palais des Beaux-Arts il y a quelques années. Donc l'idée, c'était, puisque les objets datent principalement du règne de Sésostris III, d'articuler justement la valorisation de cette collection avec la valorisation d'une personnalité très importante qui a marqué l'histoire de l'Égypte.
Pourquoi Lille et pas le Louvre, soit Lens, soit Paris d'ailleurs ?
Tout simplement parce que le dépôt des objets donc, étant arrivé à Lille, il était important pour le Palais des Beaux-Arts de saluer cette arrivée par une exposition pour les mettre en valeur. Ça a été vraiment un enjeu très important puisqu'on a ce fonds qui est assez monumental, puisqu'il est très varié, il y a des objets qui sont prestigieux et des objets très simples du quotidien. Et le pari autour de cette collection pour le Palais des Beaux-Arts, c'était justement de montrer un paradoxe en allant donc de l'objet vraiment du quotidien jusqu'à l'objet de stature royale. On a bien sûr été aidé par les prêts nombreux, notamment du musée du Louvre, qui, grâce à Guillemette André Lanoë, qui est co-commissaire de l'exposition, a fait un prêt très généreux de 50 objets pour compléter notre fonds. Mais il était important effectivement de montrer qu'à Lille, il y a une activité universitaire, avec notamment ces fouilles qui sont quand même un tournant très important dans l'égyptologie, puisqu'il a fallu lutter contre le temps avant l'engloutissement définitif de cette zone par le barrage d'Assouan, et donc de valoriser ces découvertes qui donc aujourd'hui voilà, sont révélées à tout le monde par cette exposition.
Est-ce que justement les objets qui sont regroupés aujourd'hui peuvent en eux-mêmes, et vu leur façon d'être présentés, leur assemblage, donner peut-être des idées, mieux connaître aussi, peut-être même pour les historiens, ce moment de l'histoire?
Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mirghissa donc, est une forteresse qui est éloignée de l'Empire égyptien, puisqu'on est sur une frontière que l'on va défendre. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à la diversité des objets qui proviennent de ces fouilles, nous avons des objets à la fois militaires qui nous renseignent sur comment les Égyptiens étaient armés et préparaient la défense du royaume. Nous avons beaucoup aussi d'objets du quotidien. Vous avez des objets de toilette provenant de classes modestes, tout simplement. Donc qui nous donnent vraiment un aperçu de comment vivaient ces Égyptiens, quelque part, loin de leur terre natale et loin de leur empire et de leur famille, sûrement puisque des gens étaient vraiment installés de manière pérenne. Et nous avons donc vraiment une capacité à pouvoir toucher du doigt, si je puis dire, le quotidien de personnes qui vivaient il y a plus de 3800 ans, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant justement par la présentation d'objets modestes. On est habitué à l'or, dès qu'on parle de bijouterie égyptienne, de joaillerie, vous avez des colliers qui ont été réalisés avec des matériaux très simples, comme de la coquille d'œuf d'autruche, vous avez des coquillages, de la faïence, qui sont des matériaux courants, on va dire, mais qui montrent les trésors d'ingéniosité qui ont été développés par les artisans égyptiens à Mirghissa, au regard de ce qu'ils avaient sous la main pour pouvoir justement créer tout ce qui était nécessaire à la vie sur place.
Alors c'est vrai que là on découvre à Lille hein, des objets, on va dire, moins peut-être luxueux ou moins connus dans la symbolique, notamment ces personnages humains, voire ces animaux. On retrouve ça aussi en Chine, par exemple à Xi'an, avec la dynastie Han qui avait mis en valeur aussi. On retrouve ce patrimoine de petites gens, de la vie quotidienne avec les animaux, etc. Le mode de vie, en fait, c'est aussi nouveau cette approche muséale.
C'est une approche que l'on peut rendre difficilement selon les sujets traités, tout simplement. Par exemple, si nous prenons une exposition qui serait axée mais sur un règne, par exemple, donc sur un souverain, c'est sûr que l'on va présenter des objets beaucoup plus précieux, des objets beaucoup plus exceptionnels. Tandis que lorsque l'on veut traiter dans l'intégralité un volet de l'histoire, donc ici nous traitons un règne, mais dans son approche transversale, donc à savoir le souverain mais aussi son peuple, c'est là que tout l'intérêt est de pouvoir se faire côtoyer des objets modestes vraiment et des objets extrêmement précieux. Pour revenir aux bijoux, vous avez des bijoux qui proviennent de la tombe de la princesse Hatator Younet, qui ont été découverts dans une pyramide, avec des bijoux en or, en améthyste, avec des matériaux précieux. Et je vous dis, on peut les confronter, puisqu'ils sont à quelques mètres l'un de l'autre dans l'exposition, avec les objets du quotidien, qui permettent de dresser un parallèle. On se rend compte que finalement, il y a cette recherche d'esthétique, il y a cette recherche de faire quelque chose de très beau et d'ornemental, avec des moyens différents. Et c'est ça, je pense, la richesse des expositions qui traitent de la population classique.
Dans l'histoire de l'Égypte antique, de nombreuses dynasties de pharaons se sont succédées et des noms de pharaons ont émergé plus que d'autres. Quelle place a occupé Sésostris III dans cette épopée de plusieurs siècles ? Cédric Magnier nous présente ce personnage qui fait l'objet aujourd'hui de cette exposition au Palais des Beaux-Arts de Lille.
Sésostris III est un pharaon donc, de la 12e dynastie. Il règne, donc, je vous ai dit, aux alentours de 1850 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi s'être intéressé à lui et pas par exemple Sésostris Ier qui a également été un roi important? Parce que Sésostris III a marqué une rupture dans la continuité de l'histoire égyptienne, une rupture constructive. C'est-à-dire qu'il s'est non seulement doté d'une iconographie bien spécifique qui fait qu'on reconnaît entre mille une statue représentant Sésostris III, mais c'est aussi une rupture dans la façon d'administrer le pays. Donc tout d'abord c'est un pharaon qui réforme profondément le fonctionnement de l'État égyptien, avec cette volonté de déployer une fonction publique d'État qui va administrer complètement le pays. Il faut savoir que l'administration du pays, c'est à la fois l'administration civile, mais également l'administration religieuse, puisque la religion est d'État. Le pharaon est à la fois le chef d'État et le chef de l'Église, si je puis dire. Et cette nouvelle façon de déployer l'administration est tout à fait exceptionnelle, puisque le pouvoir avant était décentralisé aux mains de nomarques. Donc les nomes étaient les divisions administratives, un petit peu comme nos départements. Et il y avait des familles qui tenaient, si je puis dire, ces régions. Et là, on a des agents publics, donc qui sont recrutés par l'État, au service de Pharaon, qui vont justement supplanter ces pouvoirs locaux, ces autorités locales, dans une volonté de vouloir contrôler complètement le pays. Parce qu'il faut savoir que auparavant, 150 ans plus tôt, le pays était en proie à des très importants troubles intérieurs, avec justement des levées de pouvoirs locaux qui défiaient l'autorité royale. Donc en réformant cette administration de la sorte, Sésostris s'assure de garder une mainmise complète sur son administration et sur son territoire. Ça, c'est une réforme très importante parce qu'aucun roi ne l'avait fait auparavant. Et également, Sésostris a étendu le territoire égyptien par la conquête, je pense à la Nubie, donc l'actuel Soudan, mais également à développer une zone d'influence dans le bassin méditerranéen qui est très importante puisqu'on a beaucoup d'échanges avec le Liban. Vous avez des prêts exceptionnels du Musée national de Beyrouth qui attestent de la richesse de ces échanges entre la civilisation égyptienne et le royaume de Byblos. Et ça montre également que les différents royaumes du bassin méditerranéen communiquaient, échangeaient sur des points de vue bien sûr diplomatiques pour faire respecter la paix entre les différents États, mais également des échanges artistiques et commerciaux. Et c'est ça qui est intéressant justement autour de la personne de Sésostris. Durant son règne aussi, je terminerai là-dessus, c'est aussi un essor de la littérature, qu'on va appeler la littérature classique égyptienne, avec des contes notamment, des récits, je pense aux contes de Sinoé, qui vont être des textes qui vont perdurer dans la tradition populaire de la littérature égyptienne. C'est pour ça que cette figure de Sésostris III aujourd'hui est rendue en lumière au public, justement pour comprendre ces aspects qui vont faire que ce souverain va marquer les esprits dans sa civilisation tout simplement. Les Égyptiens vont garder l'image d'un roi important jusqu'à la fin de la civilisation égyptienne.
Alors c'est vrai que la civilisation égyptienne est une très grande civilisation. On l'a découverte, nous, au travers des cours d'histoire, des musées, bien sûr. Est-ce qu'on peut situer donc ce roi dans le temps par rapport à l'apogée de l'Empire égyptien? Et ensuite, voir pourquoi il a décliné finalement. Parce que là, il a constitué une administration solide avec une classe moyenne qui s'est développée, donc des richesses aussi qui se sont partagées.
Bien sûr. Alors, en fait, pour situer Sésostris, donc on est au Moyen-Empire. Alors, en Égypte, l'histoire est découpée en phases. On a les empires, donc qui sont des périodes de stabilité, et les périodes intermédiaires, qui sont plutôt des périodes de troubles. Ces troubles peuvent venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Le Moyen-Empire est situé entre la première période intermédiaire, donc une période de troubles intérieurs avec la montée en puissance de ses gouverneurs locaux, et la seconde période intermédiaire, qui, elle, est une période d'invasion venant de l'étranger. Donc, cet âge d'or du Moyen-Empire, cette période qui dure 2 siècles, est une période importante, puisqu'en fait, compte tenu qu'il y a eu une période difficile avant, on veut redonner un souffle à la civilisation égyptienne. Alors, je peux vous parler des Mentouhotep, des Amenemhat, des Sésostris. Ce ne sont pas forcément des noms qui sonnent dans les esprits comme Toutankhamon, Ramsès II, Akhenaton. En fait, on est 300 ans avant l'avènement justement de la 18e dynastie avec les Amenophis, les Toutmosis, Toutankhamon, où là, l'Égypte est à l'apogée de sa gloire, si je puis dire, à l'apogée de son royaume, mais sans cette phase de construction du Moyen-Empire, où les bases ont été jetées et les bases ont été ancrées dans le solide et dans les esprits, c'est grâce à ça que le Nouvel Empire a pu ensuite rayonner comme il a rayonné et nous produire la quantité de monuments qui sont encore debout, puisque pour le Moyen-Empire, le problème que l'on a en égyptologie, et notamment par les fouilles, c'est qu'il y a très peu de monuments qui sont encore debout aujourd'hui. On a un petit peu de difficulté justement à se représenter l'état des constructions, l'état des temples au Moyen-Empire, compte tenu des maigres restes qui sont encore aujourd'hui présents sur le sol égyptien.
Alors justement, il reste peut-être encore des choses à découvrir. Quel serait votre rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir, ou qu'est-ce que vous voudriez déjà chercher avant?
Alors, d'une manière générale, je pense pouvoir parler au nom de tout le monde. C'est vrai que la grosse découverte, si je puis dire, type tombeau inviolé, qui nous permet vraiment de comprendre quelque chose, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde. Mais vous savez, des fois, il y a des découvertes d'objets qui sont très modestes, qui nous permettent en fait de comprendre, grâce aux informations qu'elles apportent, c'est aussi quelque chose comme ça qui est intéressant. Il faut savoir que les découvertes aujourd'hui en égyptologie, on va les faire, bien sûr, en fouillant sur place, puisque on estime à peu près à 40 à 45% simplement ce qui a été trouvé pour l'instant en Égypte. C'est pour vous dire ce qui reste encore caché dans le sol. Mais également, on fait des découvertes dans les musées, puisqu'on a également toute une phase d'étude des objets, et beaucoup d'objets ne sont pas encore étudiés, et livrent des informations qui permettent de s'imbriquer et de comprendre. Pour parler de Sésostris, une découverte incroyable qui a été faite, c'est la question de son inhumation. Comme tout pharaon, il a fait construire une pyramide. Simplement, les traces archéologiques sont très faibles. On n'est vraiment pas sûr que la pyramide ait été utilisée. Elle a été construite, mais pas utilisée. On a découvert une tombe à Abydos, un site qui est à une centaine de kilomètres au nord de Louxor, qui était la capitale du culte du dieu Osiris, le dieu des morts. Sésostris construit une tombe souterraine, donc une tombe cachée, un hypogée, dans lequel il semble être inhumé, aux dernières fouilles qui sont en cours. Et c'est tout à fait une rupture, puisque vous comprendrez que la pyramide est un monument donc aussi de visibilité. On affiche et on assoit sa visibilité et son pouvoir par un monument prestigieux. Mais également ici, au contraire, on va chercher à préserver son inhumation dans un territoire sacré, puisqu'on est au centre de culte du dieu des morts, donc ça a une valeur très importante pour le choix du lieu d'inhumation, et également une volonté de préserver quelque part sa tombe des pillages. Quand on arrive à trouver quelque chose qui fait avancer la connaissance de l'égyptologie, la connaissance en matière de la compréhension d'une civilisation qui à la fois est proche et qui est si lointaine, parce qu'on a tellement de vide, on va dire, au niveau connaissance sur certaines périodes, je crois que c'est ça qui motive tout chercheur justement aujourd'hui.
Donc vous parlez de pillage, est-ce que dans ces pillages, il y a des choses qu'on retrouve maintenant dans les musées? Finalement, est-ce que ça a pu être utile à un moment donné?
Alors quand je vous parle de pillage, je faisais référence aux pillages dans l'Antiquité. Il faut savoir que dès, on va dire, les périodes juste après les inhumations, les tombes étaient souvent pillées compte tenu des matériaux précieux qu'elles renfermaient. Donc aujourd'hui, on a eu, et notamment l'exposition Sésostris le montre par un prêt exceptionnel du Metropolitan Museum de New York, nous avons des objets qui ont été trouvés dans quelques caches, on va dire, de bijoux, de princesses de l'époque de Sésostris III, qui ont été découvertes, notamment la tombe de la princesse Mereret et la tombe de la princesse Atatürk Yunet, qui aujourd'hui ont des spécimens de ceintures et de bijoux qui sont présentés dans l'exposition, ce sont des objets qui ont eu la chance de ne pas avoir été saisis par les pillards. Après, lorsque l'on étudie un objet, c'est vrai qu'un objet prestigieux, des bijoux en or, des choses comme ça, quand on les a dans des musées, mais on ne sait pas d'où elles viennent, l'intérêt c'est de pouvoir essayer de comprendre d'où elles pourraient venir et de formuler des hypothèses que tel objet peut faire partie effectivement d'un mobilier funéraire royal ou d'un ensemble de dévotion dans un temple par exemple. C'est la difficulté, c'est vrai que quand on n'a pas cette traçabilité, ce pédigré sur un objet comme on peut l'avoir lors de fouilles, on émet des hypothèses plus qu'autre chose, donc on ne peut pas dire avec certitude que ça proviendrait de tel endroit ou de tel endroit.
Finalement, la traçabilité, c'est à l'historien de l'établir.
C'est à l'historien et c'est aux conservateurs dans les musées aussi qui étudient leur collection et qui en prennent soin. C'est également tout simplement à la recherche, puisqu'on peut faire de la recherche en ayant différents statuts. On peut être enseignant d'université, on peut être chercheur au CNRS, on peut être conservateur de musée. On a toutes ces différentes personnes qui, par leur centre d'intérêt aussi, peuvent à un moment donné faire la lumière sur des points de doute, tout simplement. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est de pouvoir justement faire continuer à avancer la recherche, d'autant plus que l'égyptologie est une passion française, est une passion qui a plus de 200 ans aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point la France contribue à la connaissance de ce pays qu'est l'Égypte.
Voilà, de beaux métiers.
De très beaux métiers, des métiers passion. Merci à vous.
Un grand merci à Cédric Magnier, conservateur du patrimoine stagiaire au Palais des Beaux-Arts de Lille, pour son éclairage précieux sur ce personnage et sur cette époque reculée mais brillante de l'histoire du monde. L'exposition Sésostris III, Pharaon de légende, est visible jusqu'au 25 janvier au Palais des Beaux-Arts de Lille. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.palaisdesbeauxarts.fr. Ce reportage, réalisé le jour de l'ouverture, vous était proposé par René Lavergne de Radio Campus.